Le harnais, John Steinbeck. Peter Randall était un des fermiers les plus hautement respectés du comté de Monterey. Une fois, au moment où il allait prononcer un petit discours à une assemblée maçonnique, le frère qui le présentait le cita comme un exemple à imiter pour les jeunes francs-maçons de Californie. Il approchait de la cinquantaine, ses manières étaient graves et réservées, et il portait une barbe soigneusement entretenue. Il récoltait de tous côtés l'autorité qui revient à l'homme barbu. Les yeux de Peter étaient graves également, bleus et graves, en être presque soucieux. Les gens savaient qu'il y avait de la force en lui, mais une force tenue en cage. Parfois, sans aucune raison apparente, ses yeux devenaient mornes et sournois comme les yeux d'un chien méchant. Mais cet aspect passait bientôt, et la réserve et la probité revenaient sur son visage. Il était grand et large. Il tenait ses épaules rejetées en arrière comme si elles avaient été tirées par des bretelles, et il rentrait le ventre comme un soldat. Attendu que les fermiers sont ordinairement voûtés, Peter tirait de son maintien un regain de respect. En ce qui concernait la femme de Peter, Emma, les gens étaient généralement d'accord pour déclarer combien il était difficile de comprendre comment une si petite femme, qui n'avait que la peau et les os, pouvait continuer à vivre, étant donné surtout qu'elle était la plupart du temps malade. Elle pesait 39 kilos. À 45 ans, son visage était ridé et brun comme celui d'une vieille, vieille femme. Mais ses yeux étaient enfiévrés de volonté de vivre. C'était une femme fière qui se plaignait très peu. Son père avait été franc-maçon du 33e degré et maître vénérable de la Grande Loge de Californie. Avant de mourir, il avait pris un vif intérêt à la carrière maçonnique de Peter. Une fois par an, Peter partait pour une semaine et laissait sa femme seule à la ferme. Aux voisins qui venaient lui rendre visite pour lui tenir compagnie, sa femme expliquait invariablement « il est en voyage d'affaires ». Chaque fois que Peter revenait d'un voyage d'affaires, Emma tombait malade pendant un mois ou deux. Et c'était dur pour Peter, car Emma faisait son travail elle-même et refusait d'engager une femme. Quand elle était souffrante, c'était Peter qui devait faire les travaux ménagers. Le ranch Randall se trouvait sur la rivière Salinas, au pied des collines. C'était un ensemble idéalement équilibré de basses et de hautes terres. 45 arpents d'un riche sol uni, la fleur du comté, répandus là par la rivière autant jadis et plat comme un billard. Et 80 arpents de jolis coteaux pour le foin et les arbres fruitiers. La ferme toute blanche était aussi nette et réservée que ses propriétaires. La cour immédiate était close d'une barrière et dans le jardin, sous la direction d'Emma, Peter faisait pousser des dahlias, des immortelles, des œillets de toutes sortes. De la véranda, on pouvait voir la plaine jusqu'à la rivière gainée de saules et de peupliers et au-delà de la rivière, les champs de betteraves et au-delà des champs, le dôme bulbeux du palais de justice de Salinas. Souvent, l'après-midi, Emma s'asseyait sous la véranda, dans un rocking chair, jusqu'à ce que la brise la fît rentrer. Elle tricotait constamment, levant les yeux de temps à autre, pour regarder Peter travailler dans la plaine ou dans le verger, ou sur la pente, au-dessous de la maison. Le ranch Randall n'était pas plus grévé d'hypothèques que n'importe quel autre dans la vallée. Les récoltes, judicieusement choisies, attentivement soignées, payaient les intérêts, procurait un niveau de vie raisonnable et laissait quelques centaines de dollars chaque année pour rembourser le principal. Il n'y avait rien d'étonnant que Peter Randall fût respecté de ses voisins et que ses rares paroles fussent écoutées attentivement, même lorsqu'il parlait du temps ou de la façon dont allaient les choses. Que Peter dit « Je vais tuer un cochon samedi » et presque tous ceux qui l'entendaient rentraient chez eux et tuaient un cochon samedi. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais si Peter Randall tue un cochon, il semblait bon, prudent et de bonne politique d'en faire autant. Peter et Emma étaient mariés depuis 21 ans. Ils avaient amassé de bons meubles plein leur maison, un bon nombre de tableaux encadrés, des vases de toutes formes et des livres d'un genre solide. Emma n'avait pas d'enfant. La maison était sans écorniflure, sans entaille, sans graffiti. Sous les vérandas de devant et de derrière, des décrottoirs et d'épais paillassons en fibre de coco préservaient la maison de la boue. Dans les intervalles de ses indispositions, Emma veillait à ce que la maison fût bien tenue. Les gonds des portes et des armoires étaient huilés et pas une vis ne manquait au loquet. Les meubles et les boiseries étaient revernis à neuf, une fois par an. Les réparations se faisaient en général lorsque Peter était rentré de son voyage d'affaires annuel. Chaque fois que le bruit courait parmi les fermes, qu'Emma était de nouveau malade, les voisins guettaient le médecin quand il passait en voiture sur la route de la rivière. « Oh, je pense que ça ne sera rien », répondit-il aux questions. « Il faudra qu'elle reste au lit une ou deux semaines. » Les bonnes voisines apportaient des gâteaux à la ferme Randall et entraient sur la pointe des pieds dans la chambre de la malade où la petite femme oiseau, toute menue, reposait dans un immense lit de noyer. Elle les regardait de ses petits yeux noirs brillants. « Vous ne voulez pas qu'on relève un peu les rideaux, ma chère ?» demandait-elle. « Non, merci, la lumière me fait mal aux yeux. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous ?»« Non, merci, Peter fait très bien tout ce qu'il me faut. Surtout n'oubliez pas s'il y a quelque chose à quoi vous pensiez. » Emma était une femme si fermée. Il n'y avait rien qu'on pût faire pour elle quand elle était souffrante, sinon d'apporter des tartes et des gâteaux à Peter. On trouvait Peter dans la cuisine, ceint d'un tablier propre et net, en train de remplir une bouillotte d'eau chaude ou de fabriquer du fromage à la crème. C'est ainsi qu'en automne, quand la nouvelle circula qu'Emma était couchée, les fermières mirent au four des gâteaux pour Peter et s'apprêtèrent à faire leur visite habituelle. Madame Chapelle, la voisine de la ferme la plus proche, se tenait sur la route de la rivière quand le médecin passa. « Comment va Emma Randall, docteur ?»« Je ne la trouve pas tellement bien, Madame Chapelle. À mon avis, elle est bien mal en point. » Comme, pour le docteur Marne, quiconque n'était pas un authentique cadavre était sur le chemin de la guérison, la nouvelle courut de ferme en ferme qu'Emma Randall allait mourir. Ce fut une longue et terrible maladie. Peter donnait les lavements lui-même et vidait le bassin. La suggestion du docteur d'employer une infirmière ne rencontra qu'un refus farouche dans les yeux de la patiente. Et, malade comme elle l'était, ses souhaits étaient respectés. Peter la faisait manger, la baignait et faisait le grand lit en noyer. Les rideaux de la chambre à coucher demeuraient clos. Il se passa 2 mois avant le moment où les yeux d'oiseau noir et pointu se voilèrent et où l'âme pointue se retira dans l'inconscience. Et c'est seulement alors qu'une infirmière entra dans la maison. Peter était amaigri et malade lui-même, au bord de l'affaissement total. Les voisines lui apportèrent des gâteaux et des tartes et les retrouvèrent intactes dans la cuisine quand elles revinrent. Madame Chapelle était dans la maison avec Peter, l'après-midi où mourut Emma. Peter eut immédiatement une crise nerveuse. Madame Chapelle téléphona au docteur, puis à son mari pour qu'il vienne l'aider, car Peter gémissait comme un homme fou et frappait ses joues barbues de ses poings. Ed Chapelle éprouva de la honte quand il le vit. La barbe de Peter était mouillée de larmes. Ses sanglots bruyants s'entendaient dans toute la maison. Parfois, il s'asseyait auprès du lit et se couvrait la tête d'un oreiller, et parfois, il arpentait le parquet de la chambre à coucher en soufflant comme un veau. Quand Ed Chapelle, d'un geste réfléchi, mit la main sur son épaule et dit avec une voix mal assurée « Allons, Peter, allons, voyons. » Peter repoussa brusquement sa main. Le docteur arriva et signa le certificat. Quand l'entrepreneur des pompes funèbres se présenta, Peter leur donna un mal de chien. Il était à moitié fou. Il voulut se battre quand on essaya d'enlever le corps. Ce n'est qu'après qu'Ed Chapelle et l'entrepreneur l'eurent maintenu pour que le docteur pût lui faire une piqûre hypodermique qu'il leur fut possible d'emporter Emma. La morphine ne fit pas dormir Peter. Il resta assis, replié dans un coin, en soufflant pesamment et en fixant le plancher. « Qui est-ce qui va rester avec lui ?» demanda le docteur. « Mademoiselle Jacques ?» ajouta-t-il, s'adressant à l'infirmière. « Je ne pourrais pas en venir à bout, docteur, pas toute seule. »« Voulez-vous rester, Chapelle ?»« Certainement, je resterai. » Bon, écoutez, voici du bromure, s'il recommence, donnez-lui-en. Et si ça ne fait pas d'effet, voici de la mitale, une de ces capsules le calmera. Avant de partir, ils aidèrent Peter, abruti, à passer dans le salon et l'étendirent doucement sur un divan. Ed Chappelle s'assit dans un fauteuil pour le veiller. Le bromure et un verre d'eau étaient sur la table, à côté de lui. Le petit salon était proprement balayé. Le matin même, Peter avait frotté le parquet avec des morceaux de journaux humides. Ed fit un feu de petits bois dans la grille et ajouta deux ou trois bûches de chêne quand il fut bien allumé. L'obscurité était venue de bonne heure. Une petite pluie frappait contre les fenêtres sous l'action du vent. Ed moucha les lampes à pétrole et les mit en veilleuse. Dans la grille, le feu pétillait et craquait, et les flammes ondulaient comme une chevelure au-dessus des bûches. Ed resta longtemps dans le fauteuil à regarder Peter engourdi par la drogue sur son divan. À la longue, Ed s'assoupit. Il était environ 10 heures quand il se réveilla. Il se secoua et regarda vers le divan. Peter était assis et le regardait. La main d'Ed se tendit vers le flacon de bromure, mais Peter fit « non » de la tête. « Inutile de me faire prendre quoi que ce soit, Ed. Je crois que le docteur m'a sonné assez dur, hein. Je me sens bien maintenant, juste un peu engourdi. Si tu veux seulement prendre de ces machins-là, ça te fera dormir. » »« Je ne veux pas dormir. » Il passa ses doigts sur sa barbe souillée, puis se leva. « Je vais aller me laver la figure, je serai mieux après. » Ed entendit qu'il faisait couler de l'eau dans la cuisine. Au bout d'un moment, il revint dans le salon en s'essuyant le visage avec une serviette. Peter souriait d'une façon bizarre. Jamais Ed ne lui avait vu cette expression auparavant, ce sourire embarrassé et perplexe. « Je crois que j'étais un peu déchaîné quand elle est morte, hein ?» dit Peter. « Eh ben oui, tu as fait pas mal de chambards. » « C'est comme si quelque chose avait claqué net en moi, » expliqua-t-il. « Comme des bretelles qui se cassent, ça m'a complètement fichu en l'air. Mais ça va maintenant, malgré tout. » Ed regarda par terre et vit une petite araignée brune qui courait. Il étendit le pied et l'écrasa. Peter demanda soudain, « Est-ce que tu crois à une vie dans l'au-delà ?» Ed Chappelle tressaillit, il n'aimait pas parler de choses pareilles, car en parler les rendait présentes à son esprit et le forçait à y penser. « Bah oui, tout bien considéré, mon Dieu, oui, j'y crois. » « Tu penses que quelqu'un qui est parti peut voir ce que nous faisons de là-haut ?»« Oh, je ne sais pas si j'irai jusque-là, je ne sais pas. » Peter continua comme s'il se parlait à lui-même. Même si elle me voyait et que je ne fasse pas ce qu'elle voulait, elle devrait avoir bonne impression, parce que je l'ai fait quand elle vivait. Elle devrait être contente d'avoir fait de moi un homme bien. Si je n'étais pas un homme bien quand elle n'était pas là, ça prouve que c'est elle qui me rendait comme ça, n'est-ce pas ? J'étais un homme bien, n'est-ce pas, Ed ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, j'étais ? Eh bien, à part une semaine par an, j'étais quelqu'un de bien. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Il eut une expression de colère. Excepté une chose. Il se leva et quitta sa veste et sa chemise. Sur son sous-vêtement de tricot, il portait un harnais de toile qui tirait ses épaules en arrière. Il dégrafa le harnais et le jeta. Puis, il déboutonna son pantalon, découvrant une large ceinture en caoutchouc. Il la fit tomber à ses pieds et se gratta le ventre voluptueusement avant de remettre ses vêtements. Il adressa un sourire à Ed, cet étrange sourire embarrassé. Je ne sais pas comment elle s'y prenait pour me faire faire les choses, mais elle y arrivait. Elle n'avait pas l'air de me diriger, mais elle me faisait toujours faire les choses. Tu sais, je ne pense pas que je croie à une survie. Quand elle vivait, même quand elle était malade, il fallait que je fasse ce qu'elle voulait. Mais à la minute même où elle est morte, ça a été... Tiens, comme de me débarrasser de ce harnais. Je ne pouvais plus le supporter, c'était fini. Il va falloir que je m'habitue à me passer de ce harnais. Il pointa le doigt dans la direction d'Ed. « Mon ventre va sortir, » dit-il péremptoirement. « Je le laisserai sortir. »« Quoi, j'ai 50 ans ?»« Cela déplut à Ed. Il avait envie de s'en aller. Ce genre de choses n'était pas très convenable. « Si tu veux seulement prendre de ce machin-là, ça te fera dormir », dit-il faiblement. Peter n'avait pas remis sa veste. Il était assis sur le divan, la chemise ouverte. « Je ne veux pas dormir, je veux causer. Je crois qu'il faudra que je mette la ceinture et le harnais pour l'enterrement, mais après ça, je les brûlerai. Dis donc, j'ai une bouteille de whisky dans la grange. Je vais la chercher. » « Oh non !» protesta vivement Ed. « Je ne pourrai pas boire maintenant, dans un moment comme celui-ci. » Peter se leva. « Oh, moi je peux. Tu peux rester à me regarder si tu veux. Je te le dis, tout ça est fini. » Il sortit, laissant Ed Chappelle malheureux et scandalisé. Au bout d'un court moment, il revint. Il se mit à parler dès la porte, en apportant le whisky. « Je n'avais qu'une chose dans ma vie, c'est voyage. » Emma était une femme assez intelligente, elle savait que je serais devenu fou si je n'avais pas pu m'échapper une fois par an. Bon Dieu, comme elle travaillait ma conscience quand je revenais. Sa voix avait pris un ton confidentiel. Tu sais ce que je faisais pendant ces voyages ? Les yeux d'Ed étaient tout grands ouverts. Il avait devant lui un homme qu'il ne connaissait pas et il était fasciné. Il prit le verre de whisky qui lui était tendu. Non, qu'est-ce que tu faisais ? Peter lampa son alcool, toussa et s'essuya la bouche de la main. « Je me saoulais, » dit-il. « J'allais dans des maisons à femmes, à San Francisco. J'étais sous toute la semaine et chaque soir j'allais dans une autre maison. » Il se versa un autre verre. « Je crois qu'Emma le savait, mais elle n'a jamais rien dit. J'aurais éclaté si je n'avais pu m'échapper. » Ed Chappelle sirotait son whisky à petits coups. « Elle disait toujours que tu partais pour affaires. » Peter regarda son verre, le vida et le remplit encore. Ses yeux commençaient à briller. Bois ton verre, Ed. Je sais que tu penses que ce n'est pas bien. Si peu de temps après... Mais personne ne le saura que toi et moi. Ranime le feu, je ne suis pas triste. Chappelle s'approcha de la grille. Il tisonna les bûches rougeoyantes et une multitude d'étincelles s'envolèrent dans la cheminée comme des petits oiseaux lumineux. Peter remplit les verres et retourna prendre place sur le divan. Quand Ed revint à son fauteuil, il but à petites gorgées sans faire semblant de s'apercevoir que son verre avait été rempli. Ses joues étaient rouges. Cela ne semblait plus si terrible maintenant de boire. L'après-midi et le décès avaient reculé dans un passé indéterminé. « Veux-tu des gâteaux ?» demanda Peter. « Il y en a une demi-douzaine dans le garde-manger. » « Non, je ne crois pas que j'en veux, merci. »« Tu sais, » confessa Peter, « je crois que je ne mangerai plus de gâteaux. » Pendant 10 ans, chaque fois qu'Emma était malade, les gens m'envoyaient des gâteaux. C'était gentil à eux, bien sûr. Seulement maintenant, pour moi, gâteau veut dire malade. Bois ton verre. » Il se passa quelque chose dans la pièce. Les deux hommes levèrent la tête pour découvrir ce que c'était. La pièce avait quelque chose de différent par rapport au moment précédent. Alors, Peter eut un sourire en dessous. C'est la pendule de la cheminée qui s'est arrêtée. Je crois que je ne vais pas la remonter. Je prendrai un petit réveil matin qui bat vite. Ce cloc, cloc, cloc. C'est trop sinistre. Il avala son whisky. Je suppose que tu vas raconter partout que je suis fou, hein ? Ed leva les yeux de son verre, sourit et fit un signe de tête. « Non, sûrement pas. Je vois assez bien comment tu ressens les choses. Je ne savais pas que tu portais ce harnais et cette ceinture. »« Un homme doit se tenir droit, » dit Peter. « Je suis voûté de nature. » Alors il explosa. « Je suis un idiot de nature. Pendant 20 ans, j'ai fait semblant d'être un homme bien et raisonnable, excepté pendant une semaine chaque année. Tout m'était compté au compte-gouttes, » ajouta-t-il d'une voix forte. « Ma vie m'a été comptée au compte-gouttes. Tiens, laisse-moi remplir ton verre. J'ai une autre bouteille dans la grange, tout au fond, sous une pile de sacs. » Ed tendit son verre pour le faire remplir. Peter continua. « J'ai pensé que ça serait épatant de mettre tout mon terrain du bord de l'eau en poids de senteur. Pense comment ça serait de voir de la véranda tous ces arpents de bleu et de rose, tout d'une masse. Et quand le vent soufflerait là-dessus, pense à cette odeur, une odeur à vous mettre à l'envers. » Il y a des gens qui se sont ruinés avec les pois de senteur. Pour sûr, on tire un bon prix de la semence, mais il y a trop de choses qui peuvent arriver à la récolte. « Je m'en fous !» rugit Peter. « Je vais avoir plein de tout. Je vais avoir 40 arpents de couleurs et de parfums. Je veux des grosses femmes avec des seins comme des oreillers. J'ai faim, je te dis. J'ai faim de tout et du reste. » Le visage d'Ed devint grave sous les rugissements. « Si tu prenais seulement de ce machin-là, ça te ferait dormir. » Peter parut honteux. « Ça va très bien. Je n'ai pas fait exprès de hurler comme ça. Ce n'est pas juste maintenant que j'ai pensé ça pour la première fois. J'y ai pensé pendant des années, comme un gosse pense aux vacances. J'avais toujours peur d'être trop vieux ou de partir le premier et de tout rater. Mais je n'ai que 50 ans, j'ai encore plein de vinaigre dans les veines. » J'ai parlé à Emma des pois de senteur, mais elle n'a pas voulu me laisser faire. « Je ne sais pas comment elle s'y prenait pour me faire faire les choses, » dit-il perplexe. « Je ne me rappelle pas. Elle avait une façon de faire ça, mais elle n'y est plus. J'ai la sensation qu'elle n'y est plus, exactement comme j'ai la sensation que ce harnais n'y est plus. Je vais être voûtée, Ed. Je vais me voûter tant que je pourrai. » Je vais te coller de la boue dans la maison avec mes souliers, je vais chercher une grosse ménagère bien grasse, une grosse grasse de San Francisco. Je vais avoir tout le temps une bouteille d'eau de vie sur l'étagère. Ed Chappelle se leva et étira ses bras au-dessus de sa tête. Je crois que je vais rentrer maintenant, si tu te sens bien. Il faut que j'aille dormir. Tu ferais mieux de remonter le pendule, Peter. Ça ne leur vaut rien au pendule de ne pas marcher. Le lendemain de l'enterrement, Peter Randall se mit au travail à la ferme. Les Chappelle, qui habitaient à côté, virent la lampe dans sa cuisine bien avant l'aube, et ils virent sa lanterne traverser la cour en direction de la grange une demi-heure avant de se lever eux-mêmes. Peter tailla ses arbres fruitiers en 3 jours. Il travaillait depuis la première lueur jusqu'au moment où il ne pouvait plus distinguer les rameaux sur le ciel. Puis, il entreprit de façonner le grand morceau de plaine près de la rivière. Il laboura, roula, herça. 2 hommes étranges, avec des bottes et des culottes de cheval, vinrent examiner sa terre. Ils tâtèrent la boue de leurs doigts, ils creusèrent des trous profonds avec un outil à enfoncer les poteaux, et, quand ils s'en allèrent, ils emportèrent de la boue dans 2 petits sacs en papier. Ordinairement, avant le temps des semailles, les fermiers échangeaient, visite sur visite. Ils s'asseyaient sur leur derrière, ramassaient des poignées de terre et brisaient les petites mottes entre leurs doigts. Ils discutaient, marchaient et récoltent, rappelaient les années où les haricots avaient bien rendu et s'étaient vendus à un bon cours, et d'autres années où les petits pois n'avaient même pas assez rapporté pour payer péniblement la semence. Après un grand nombre de discussions de ce genre, il arrivait régulièrement que tous les fermiers semaient la même chose. Il y avait certains hommes dont les idées avaient du poids. Si Peter Randall ou Clark de 8 pensaient mettre des haricots roses et de l'orge, la plupart des champs se trouvaient ensemencés de haricots roses et d'orge cette année-là. Car, étant donné que ces hommes étaient respectés et réussissaient bien, il était admis que leur choix était basé sur autre chose qu'un pur hasard. On croyait généralement, sans jamais le déclarer, que Peter Randall et Clark de 8 jouissaient d'un pouvoir dépassant le raisonnement et d'une connaissance prophétique spéciale. Quand les visites d'usage commencèrent, on vit qu'un changement s'était opéré chez Peter Randall. Il s'asseyait sur sa charrue et causait assez plaisamment. Il disait qu'il n'avait pas encore décidé ce qu'il sèmerait, mais il le disait d'un air si coupable qu'il était clair qu'il n'avait pas l'intention de le révéler. Quand il eut rebuté quelques enquêtes, les visites cessèrent chez lui et les fermiers se portèrent encore chez Clark de 8. Clark mettait de l'orge chevalier. Sa décision dicta la majeure partie des semis du voisinage. Mais si les questions avaient cessé, la curiosité ne cessait pas. Les hommes qui passaient devant les 45 arpents de plaine de la ferme Randall observer le champ pour essayer de déduire, d'après le genre du travail, ce que serait la culture. Quand Peter commença à faire passer son semoir d'un bout à l'autre de sa terre, personne ne parut, car Peter avait fait clairement entendre que sa culture était un secret. Ed Chappell ne le trahit pas d'ailleurs. Ed avait un peu honte quand il pensait à ce soir-là. Honte de Peter pour son débordement et honte de lui-même pour être resté à l'écouter. Il observait Peter étroitement pour voir si les intentions dépravées de Peter existaient réellement ou si toute cette conversation n'avait été que le résultat de l'égarement et de la crise de nerfs. Il remarqua que les épaules de Peter n'étaient pas rejetées en arrière et que son ventre bedonnait un peu. Il alla chez Peter et respira quand il ne vit pas de traces de boue sur le plancher et quand il entendit le tic-tac de la pendule de la cheminée. Madame Chappell parlait souvent de cet après-midi-là. On aurait cru qu'il avait perdu l'esprit à sa façon de se conduire. Il ne faisait que hurler. Ed est resté avec lui une partie de la nuit jusqu'à ce qu'il soit calmé. Ed a dû lui donner un peu de whisky pour le faire dormir. Mais, disait-elle d'un air entendu, il n'y a rien de tel que le travail pour tuer le chagrin. Peter Randall se lève tous les matins à 3h. De mon lit, je vois la lumière à la fenêtre de sa cuisine. Les saules éclatèrent en gouttelettes d'argent et les jeunes herbes poussèrent sur le bord des routes. La rivière Salinas roula une eau sombre, déborda pendant un mois, puis baissa en formant des nappes vertes. Peter Randall avait façonné sa terre magnifiquement. Elle était tendre et noire. Il n'y avait pas une motte plus grosse qu'une bille et, sous la pluie, elle prenait un riche aspect pourpre. Alors, les minces petites rangées vertes levèrent tout le long du champ noir. Au crépuscule, un voisin rampa sous la barrière et arracha un des frêles plants. « Une espèce quelconque de légumes ?» dit-il à ses amis. « Des petits pois, je pense. Qu'est-ce qui lui a pris de faire tant de mystère ? Je lui ai demandé carrément ce qu'il semait et il n'a pas voulu me le dire. » Le fin mot se répandit dans les fermes. « C'est des pois de senteur ! Tout ce bon Dieu de terrain de 45 arpents en pois de senteur !» Les hommes allèrent donc trouver Clark de 8 pour avoir son opinion. Son opinion était celle-ci. Il y a des gens qui croient, parce que les pois de senteur rapportent de 20 à 60 cents la livre, qu'on peut s'enrichir avec. Mais c'est la culture la plus capricieuse du monde. Si les pucerons ne s'y mettent pas, ça peut réussir. Et alors il vient une journée de chaleur qui grille les gousses et qui fait couler toute votre récolte. Ou bien il peut tomber une petite pluie qui gâche tout le fourbi. C'est très bien d'en mettre sur quelques arpents et de risquer le coup, mais pas partout. Peter est un peu dérangé depuis qu'Emma est morte. Cette opinion fut largement diffusée. Chacun des hommes la fit sienne. Deux voisins se la disaient souvent l'un à l'autre, chacun en récitant la moitié. Quand un trop grand nombre de gens l'eurent répété à Peter Randall, il se mit en colère. Un jour, il s'écria « Dis donc, à qui est cette terre ? Si je veux me ruiner, nom de Dieu, j'ai tout de même le droit de le faire, non ?» Et cela changea toute la façon de voir. Les hommes se souvinrent que Peter était un bon fermier. Il avait peut-être une connaissance spéciale. Mais oui, voilà ce que c'était, ces deux hommes beauté, des chimistes. Bon nombre de fermiers regrettèrent de ne pas avoir fait quelques arpents de bois de senteur. Ils le regrettèrent particulièrement quand les tiges s'étalèrent, quand elles se touchèrent d'un rang à l'autre en cachant le sol noir, quand les boutons commencèrent à se former et qu'on vit que la récolte serait riche. Puis vinrent les fleurs, 45 arpents de couleur, 45 arpents de parfum. Les gens disaient que ça se sentait jusqu'à Salinas, à 6 km de là. Des autocars amenèrent des enfants des écoles pour les voir. Un groupe d'hommes, appartenant à une maison de graines, passa tout un jour à examiner les plants et à tâter le sol. Peter Randall s'asseyait dans un rocking chair, sous sa véranda, chaque après-midi. Il contemplait les grands carrés roses ou bleus et le carré délirant de couleur panachée. Quand la brise de l'après-midi se levait, il aspirait profondément. Sa chemise bleue était ouverte sur sa gorge, comme s'il avait voulu avoir le parfum contre sa peau. Les hommes retournèrent chez Clark de 8 pour avoir maintenant son opinion. Il dit « Il y a à peu près 10 choses qui peuvent se produire pour gâcher cette récolte. Je lui en souhaite du bonheur avec ses pois de senteur. » Mais les hommes virent à son irritation que Clark était un peu jaloux. Ils regardèrent au-delà des champs colorés la véranda où Peter se tenait assis. Et ils ressentirent pour lui une nouvelle admiration et un nouveau respect. Ed Chappell monta les marches pour lui parler un après-midi. Drôle de récolte que t'as là, dis donc. M'en a tout l'air, répondit Peter. J'ai jeté un coup d'œil, les gousses se forment bien. Peter soupira. La floraison est presque finie, dit-il. Ça me fera de la peine de voir les pétales tomber. Ah, moi je serais heureux de les voir tomber. Tu vas faire de l'argent s'il n'arrive rien. Peter sortit un grand mouchoir de couleur, se moucha et tordit de côté son nez qui le démangeait. Je regretterai quand ça ne sentira plus, dit-il. Alors Ed fit allusion à la nuit de la mort. Une de ses paupières s'abaissa avec mystère. Tu as trouvé quelqu'un pour tenir ton ménage ?
Je n'ai pas cherché, dit Peter. Je n'ai pas eu le temps.
Des rides soucieuses se creusaient autour de ses yeux. Mais qui n'aurait pas été soucieux, pensa Ed, alors qu'une seule averse pouvait ruiner toute la récolte de l'année. Si l'année et le temps avaient été fabriqués exprès pour les poids de senteur, il n'aurait pas pu être meilleur. Le brouillard s'étendait à ras du sol le matin où l'on arracha les plantes. Une fois les gros tas de plantes placés en sécurité sur des toiles étalées, un soleil chaud rendit les gousses cassantes à point pour la batteuse. Les voisins regardaient les longs sacs à coton s'emplir de graines rondes et noires et rentraient chez eux en essayant de calculer quelle somme Peter tirerait de cette formidable récolte. Clark de Witt perdit une grande partie de ses fidèles. Les hommes décidèrent de découvrir ce que Peter sèmerait l'année suivante, du style le suivre partout. Comment le savait-il, par exemple, que l'année serait bonne pour les pois de senteur ? Il fallait qu'il eût une espèce de connaissance spéciale. Quand un homme de la haute vallée de Salinas va à San Francisco pour affaires ou en vacances, il prend une chambre à l'hôtel Ramona. C'est un arrangement excellent car il peut le plus souvent trouver dans le hall quelqu'un de chez lui. On peut se reposer dans des fauteuils confortables tout en parlant de la vallée de Salinas. Ed Chappell se rendit à San Francisco pour voir un cousin de sa femme qui venait en voyage de l'Ohio. Le train ne devait arriver que le lendemain matin. Dans le hall du Ramona, Ed chercha quelqu'un de la vallée de Salinas. Mais il ne vit dans les fauteuils confortables que des étrangers. Il sortit pour aller au cinéma. Quand il revint, il chercha de nouveau quelqu'un du pays, mais il n'y avait toujours que des étrangers. Pendant un moment, il s'arrêta à parcourir le registre, mais il était très tard. Il s'assit pour finir son cigare avant d'aller se coucher. Il y eut un bruit violent à la porte. Ed vit l'employé faire un geste de la main. Un chasseur se précipita dehors. Ed se retourna sur son fauteuil pour regarder. Devant la porte, on aidait un homme à sortir d'un taxi. Le chasseur le reçut des bras du chauffeur et le guida vers le hall. C'était Peter Randall. Ses yeux étaient vitreux et sa bouche ouverte était humide. Il n'avait pas de chapeau et ses cheveux étaient complètement ébouriffés. Ed bondit et courut à lui. « Peter !» Peter se débattait faiblement pour se libérer du chasseur. « Laisse-moi tranquille, » dit-il. « Je suis très bien. Laisse-moi et je te donnerai 10 ronds. » Ed appela de nouveau. « Peter ?» Les yeux vitreux se portèrent lentement sur lui et Peter tomba dans ses bras. « Mon vieil ami » s'écria-t-il. « Ed Chappell, mon bon vieil ami, qu'est-ce que tu fais là ? Viens dans ma chambre, prends un verre. » Ed le remit d'aplomb sur ses pieds. « Bien sûr, je viens, » dit-il. « Ça me ferait plaisir de boire un petit grog avant de me coucher. » « Un grog ? T'es pas fou ? On va sortir, on va aller voir un spectacle, n'importe où !» Ed le mit dans l'ascenseur. Il le conduisit dans sa chambre. Peter s'écroula lourdement sur le lit et reprit péniblement une position assise. « Il y a une bouteille de whisky dans la salle de bain. Apporte-moi un verre aussi. » Ed apporta la bouteille et des verres. « Qu'est-ce que tu fais, Peter ? Tu fêtes ta récolte ? Tu dois avoir entassé des monceaux d'or !» Peter avança la paume de sa main et la frappa significativement de son index. « Bien sûr, j'ai fait de l'or ! Mais ça ne valait pas mieux que de jouer. C'était exactement un jeu de hasard. Mais tu as encaissé l'argent ?» Peter fronça les sourcils d'un air pensif. « J'aurais pu y perdre ma culotte, » dit-il.
Pendant tout le temps, toute l'année, j'étais embêtée. C'était exactement du jeu. Enfin, en tout cas, tu as touché. Peter changea alors de sujet. « J'étais malade, » dit-il. « J'étais malade dans le taxi. Je sors d'une boîte de l'avenue Van Ness, » expliqua-t-il en s'excusant. « Il fallait absolument que je vienne en ville. J'aurais éclaté si je n'étais pas venu vider un peu le vinaigre que j'ai dans le système. » Ed le regardait curieusement. La tête de Peter ballottait sur sa poitrine. Sa barbe était entortillée et hirsute. « Peter, » commença Ed, « le soir où Emma est partie, tu as dit que tu allais changer les choses. » La tête branlante de Peter se redressa lentement. Il dirigea vers Ed un regard de hibou.
« Elle n'est pas morte pour de bon, » dit-il d'une voix épaisse. « Elle ne veut pas me laisser faire les choses. Elle m'a embêté toute l'année à propos de ses poids. »
Ses yeux avaient une expression d'étonnement.
« Je ne sais pas comment elle fait. »
Puis, il se rembrunit. Sa paume réapparut et il la frappa de nouveau.
« Mais écoute bien ce que je te dis, Ed Chappelle. Je ne le porterai jamais plus. Rappelle-toi ce que je te dis. »
Sa tête retomba en avant, mais au bout d'un moment, il la releva.
« Je me suis saoulé, » dit-il avec sérieux. « J'ai été dans des maisons à femmes. »
Il se pencha confidentiellement vers Ed. Il reprit dans un chuchotement pénible.
« Mais t'en fais pas, j'arrangerai ça. Quand je rentrerai, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire mettre l'électricité. Emma a toujours voulu avoir l'électricité. »
Il s'affaissa de côté sur le lit. Ed Chappelle étendit Peter et le déshabilla avant de regagner sa chambre.